La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit :
Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?
Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus :
Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?
Il leur dit :
Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara :
Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer.
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour :
Serait-ce moi, Seigneur ?
Prenant la parole, il dit :
Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là.
Judas, celui qui le livrait, prit la parole :
Rabbi, serait-ce moi ?
Jésus lui répond :
C'est toi-même qui l'as dit.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit :
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant :
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit :
Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Prenant la parole, Pierre lui dit :
« Ils tous viennent à tomber à cause de toi. Moi, je ne tomberai pas. »
Jésus lui répondit :
« Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. »
Pierre lui dit :
Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier.
Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi.
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait :
Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. »
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre :
« Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait :
« Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »
Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit
« Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. »
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe.
« Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. »
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit
« Salut, Rabbi. »
Et il l'embrassa. Jésus lui dit
« Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. »
Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit
« Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?
À ce moment-là, Jésus dit aux foules :
Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent
« Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. »
Alors le grand prêtre se leva et lui dit
« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?»
Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit
« Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »
Jésus lui répond
« C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant
« Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?
Ils répondirent :
Il mérite la mort.
Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant :
Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?
Cependant, Pierre était assis en dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit :
Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.
Mais il le nia devant tout le monde et dit :
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là :
Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen.
De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment :
Je ne connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui se tenaient là se rapprochèrent et dirent à Pierre :
Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit.
Alors il se mit à protester violemment et à jurer :
Je ne connais pas cet homme.
Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et dehors pleura amèrement.
Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent. Partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit :
J'ai péché en livrant à la mort un innocent.
Ils répliquèrent :
Que nous importe ? Cela te regarde.
Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent :
Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang.
Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea :
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus déclara :
C'est toi-même qui le dis.
Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit :
Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit :
Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?
Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. tandis qu'il se jette au tribunal, sa femme lui fit dire
« Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. »
Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit
« Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?»
Ils répondirent
« Barabbas. »
Pilate leur dit
« Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?»
Ils répondirent tous
« Qu'il soit crucifié. »
Pilate demanda
« Quel mal a-t-il donc fait ?»
Il criait encore plus fort
« Qu'il soit crucifié. »
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant
« Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. »
Tout le peuple répondit
« Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. »
Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillèrent devant lui en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait
« Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. »
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant
« Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ».
Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte
« Eli, Eli, lema sabachthani ?»
Ce qui veut dire
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient
« Le voilà qui appelle le prophète Élie. »
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient
« Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. »
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
«
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent
« Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. »
Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant
« Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « Trois jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première.
Pilate leur déclara
« Vous avez une garde ? Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. »
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter deux évangiles, l'un à l'entrée de l'Église et ce récit de la Passion qui nous raconte les deux actes d'un drame terrible, celui du Créateur qui est crucifié par sa créature. Tout d'abord, Jésus, entrant à Jérusalem, assis humblement sur une ânesse, acclamé par une foule en délire, sortit à sa rencontre. Cette foule immense le reconnaît comme roi et messie, et dans son enthousiasme, ne sait quoi inventer pour fêter le retour de Jésus à Jérusalem. Ce Jésus les avait guéris, enseigné, apaisé, il leur avait redonné l'espérance. Tant de miracles, tant de signes accomplis, de joie retrouvée grâce à lui, le revoilà enfin à Jérusalem. Et un cri monte unanime, celui que nous avons chanté, frères et sœurs. Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans la ville, les responsables politiques et religieux s'inquiètent. Qui est cet homme ? Depuis longtemps déjà, ils veulent sa mort. À lui, lui qui n'apporte que l'amour et le pardon, qui n'apporte que la vie et l'espérance, la joie et la paix. Et puis voilà que s'ouvre le deuxième acte de ce drame. Jésus n'est pas venu pour un triomphe terrestre, mais pour donner sa vie. Pour aimer jusqu'au bout, lui qui a été acclamé comme le roi et le Messie, va être rejeté de cette ville, de sa ville, pour être sacrifié, crucifié par cette même foule qui l'avait acclamé quelques jours avant. Ils vont crier non plus « Hosanna », mais « À mort, qu'il soit crucifié ». Ses proches vont trahir, renier, fuir, abandonner. La foule va le mépriser, le ridiculiser. Les médias de l'époque ont bien fait leur travail. Ils ont retourné l'opinion. Et les cœurs sans conviction, sans courage, sans reconnaissance, sans honte, vont aller vers la pensée commune. Jésus doit mourir. Il serait dangereux de prendre position pour lui. Frères et sœurs, ce drame de la Passion, qui bouleverse notre cœur, il n'est pas seulement historique, il est actuel, il est permanent, il est perpétuel dans l'humanité. Toujours de la même manière, Jésus vient humblement vers les hommes, vers l'humanité, offrir son amour. Et il va être accueilli par ceux-ci dans la mesure où il ne dérange pas, dans la mesure où on en attend des avantages temporels. Mais lorsqu'il s'agit de reconnaître Jésus sur le chemin plus rocailleux du calvaire, du pardon, du sacrifice, de l'exigence de vie, de la fidélité, alors l'humanité préfère Barabbas, celui qui est vide, qui n'a pas de vérité en lui. Aujourd'hui, il en est ainsi. On voudrait que l'Église pense et dise comme le monde. On voudrait que l'Église accepte toutes les dérives au nom d'une fausse ouverture au monde. C'est la versatilité des foules que nous connaissons si bien, qui pousse à aller vers le plus fort et non vers celui qui proclame la vérité. Mais ce drame de la Passion, il est aussi actuel dans notre cœur, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque nous accueillons Jésus avec enthousiasme au jour où nous communions, au jour de fête, nous sommes alors comme cette foule qui chante l'Hosanna. La consolation est là, mais peut-être parfois au fond de notre cœur sommeille le pharisien, c'est-à-dire cet esprit critique, cet esprit de rébellion, de jalousie, d'orgueil, de colère. Il suffit que la contradiction arrive et finalement nous rejetons l'amour, le pardon, la miséricorde, la fidélité, Jésus. Ce drame, c'est chaque jour qu'il se déroule lorsque nous avons un choix à poser. Qui préférons-nous, râler ou pardonner? Aller à la messe ou rester au lit? Prier ou regarder nos écrans? Bouder ou se réconcilier? Jésus ou Barabbas? Pourtant, aujourd'hui comme autrefois, Jésus ne s'arrête jamais, jamais d'aimer et de se donner. Dans la Jérusalem de notre cœur, il va donner sa vie. C'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie, dans chaque Eucharistie. Car ce drame de la croix, il est réellement présent sous nos yeux à chaque messe où Jésus se donne en sacrifice. Acceptons-nous, frères et sœurs, d'entrer à Jérusalem avec lui pour souffrir avec lui. Ah, si nous savions l'immensité d'amour qui se donne dans l'Eucharistie, l'immensité d'amour. Ce n'est plus une branche de rameau que nous sommes venus chercher pour nous protéger des dangers de la vie, mais bien plutôt la vie éternelle, le mystère du Christ qui féconde toute notre vie. Ce n'est pas une branche de buis qui nous sauve, mais l'arbre de la croix source de vie qui relie le ciel et la terre et sur lequel Jésus nous libère de tout péché. Entrons dans cette semaine sainte avec lui pour mourir avec lui au péché et nous livrer enfin à l'amour infini du Seigneur. Amen.